Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez notre émission Tribune de la Presse qui revient chaque vendredi sur l'actualité de la semaine. De ces fêtes, nous parlons ce soir de la nouvelle Assemblée nationale qui ouvre sa première session extraordinaire ce vendredi à Kinshasa. Il s'agit d'une session d'installation. Nous parlons également ce soir de la coalition AMP Palou. Le parti lumumbiste initié d'Antoine Gizenga vient de décider de composer avec l'alliance de la majorité présidentielle, une plateforme qui soutient la candidature du président Joseph Kabila. Afin, nous allons revenir sur l'incendie qui a consumé en début de cette semaine le bâtiment qui abrite les installations de deux chaînes de télévision et radio appartenant au vice-président Jean-Pierre Bemba, candidat au second tour de l'élection présidentielle en RDC. Tribune de la Presse reçoit comme invité Mike Mukebai, directeur de publication de Africa News. Bonsoir.
Bonsoir, Brel.
Nous recevons également dans ces studios Victoire Eyobi, rédacteur en chef de Forum des As, à qui nous disons également bonsoir.
Bonsoir.
Et si la ligne téléphonique le permet, nous allons être avec Ferdinand Ferrella, journaliste à La Voix de l'Amérique. Alors c'est vendredi que la nouvelle Assemblée nationale ouvre sa première session. Comme déjà annoncé, il s'agit d'une session d'installation. Plusieurs députés élus dans différentes provinces sont arrivés à Kinshasa. Comment les nouveaux représentants du peuple considèrent cette journée? Pour ceux d'entre eux qui ont été interrogés ce matin, ce moment est historique parce qu'il marque une rupture avec une page de l'histoire de notre pays. Alors voyons d'autres détails avec notre confrère Georges Kamoudjova que nous avons joint sur place au Palais du Peuple souvent.
On considère cette journée comme étant solennelle. Il y a par exemple un député élu à Boudjala dans la province de l'Équateur. Il s'agit de M. Jean-Lucien Moussa, bien élevé, qui pour lui, cette journée marque la fin des systèmes monolithiques. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Notre député du camp présidentiel, il s'agit de M. Guillaume Samba Kapito, qui pour lui, aujourd'hui, cela concrétise la promesse du chef de l'État qui avait promis les élections. Vous savez que M. Guillaume Samba Kapito est membre du cabinet du chef de l'État. Nous lui avons posé la question de savoir s'il va démissionner ou s'il va rester à l'Assemblée nationale. Il nous a dit la réponse dans une semaine. La journée solennelle, il y a un autre député, lui c'est ministre de la du Palou, il vient de très loin, de Chikapa au Kasaï occidental. Il nous a dit quitter sa ville à 2000 km pour défendre les intérêts de ses électeurs. C'était formidable, en tout cas c'était ses propres mains. Et donc, tous les amis, comme vous pouvez l'imaginer, les honorables députés donnent un sens profond à cette journée. Et depuis le Palais du Peuple, Georges Tamoudjova pour Radio Capitale.
Mike Mukebai, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur de publication de Africa News. Donc, c'est la première institution ici des élections qui se sont données le 30 juillet dernier à s'installer. Que dire de ces premiers pas?
Non, c'est comme l'a dit un député, comme l'a rapporté le confrère de Radio Capi qui est au Palais du Peuple, comme il l'a rapporté, c'est historique. Nous venons de passer 16 années de transition. Si aujourd'hui nous pouvons faire le premier pas avec la mise en place de ces parlements, sur le plan formel, on peut dire que c'est historique. Mais ce qui sera davantage historique, c'est ce qui naîtra de ces parlements. Et c'est là que je me pose beaucoup de questions. Je remarque que la majorité qui est en train de se mettre en place est une majorité hétéroclite. Cette majorité ne s'est pas mise en place au nom d'un programme de gouvernement. Ici, il n'y a pas eu d'alliance idéologique. Ce qui a préoccupé les gens, c'est plus de faire partie du groupe majoritaire pour gouverner ensemble. Alors, je crains fort que ces parlements n'arrivent pas à nous donner des idées nettes et claires sur la gouvernance. Ça, je les crains. Et vous savez, naturellement, c'est de ces parlements que va sortir le gouvernement. Donc, c'est cette majorité qui va contrôler le gouvernement. Alors, le gouvernement naîtra avec la même malformation congénitale. Donc, nous risquons de connaître 5 années de tâtonnement parce qu'au départ, les gens ne se sont même pas mis d'accord sur des idées forces qui peuvent diriger un gouvernement, qui peuvent conduire notre nation. Oui. Et cette crainte-là, je continuerai à la formuler pendant toute la durée de cette législature.
Oui, Mike Mkeba, je suis tentée de vous dire comme wait and see, comme ils disent les Anglais.
Non,
donc
non,
on
non,
va
non, 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 non,
attendre de voir ce que
non, non,
l'extra
je vous redis à moi.
De l'Assemblée
Non,
nationale.
non, je vous redis à moi. Moi, je ne peux pas attendre voir. Je suis un acteur, je suis un analyste, et même en tant que citoyen, il faut jamais demander aux citoyens d'attendre de voir. Ce n'est pas correct. Ces gens qui sont là-bas, ils ont notre destin entre leurs mains, et nous ne pouvons pas attendre voir. Nous devons le pousser. Si nous émettons cette crainte, c'est pour éveiller l'opinion, qu'elle pousse ces gens à se responsabiliser.
Alors, on nous signale que Ferdinand Ferrella, qui est journaliste à la Voix de l'Amérique, est déjà en ligne. Ferdinand Ferrella, nous parlons ici au fait de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale issue des élections du 30 juillet dernier. Est-ce que vous avez l'impression que cela concrétise la volonté manifestée par le peuple congolais au 30 juillet dernier?
Écoutez, c'est un pas important dans la mise en place des institutions de la Troisième République. Hein. C'est la première institution donc qui voit le jour. C'est un petit peu étrange, disons, vu de l'extérieur, de voir que l'Assemblée nationale est déjà fonctionnelle alors que le président n'a pas encore été élu, que le gouvernement n'a pas été encore formé. On a l'impression que la Constitution avait été rédigé en fonction d'un tour unique, disons, hein, d'un premier tour où il y aurait déjà un président et probablement déjà un chef de gouvernement. Mais en tout cas, la mise en place de l'Assemblée nationale, je dirais, c'est une réalité palpable pour les Congolais qui voient les premiers résultats de ces élections. Enfin, quelque chose se met en place. Et maintenant, évidemment, on attend de voir quelles seront les premières lois qui seront votées à l'Assemblée. Et là, je crois que ce sera le véritable test. Est-ce que cette nouvelle Assemblée, qui est issue du peuple pour la première fois dans l'histoire du Congo Zaïre, est-ce que cette première Assemblée va s'attaquer aux problèmes réels que connaît le pays? Vous les connaissez tous, hein, c'est le problème de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la situation sociale qui s'est considérablement dégradée. Où est-ce qu'elle va se pencher sur des dossiers, disons, qui ne sont pas forcément la priorité des Congolais? En fait, elle devra faire oublier que la précédente Assemblée s'est surtout distinguée par le fait qu'elle avait voté, l'une des premières lois qu'elle avait votées, si je me souviens bien, c'était l'autorisation d'acheter des 4x4 flambant neufs pour chaque député. Et donc ça va lui faire perdre un petit peu de crédibilité. Et là, il faudra voir si, par exemple, cette nouvelle Assemblée va faire le suivi de la précédente, qui a quand même fait autre chose que de voter des 4-4. Elle a quand même fait le rapport Lutundula, par exemple, qui est fondamental comme premier pas dans la lutte contre la corruption, mais qui n'a jamais été véritablement débattu en plénière, qui n'a jamais eu de suite judiciaire. Est-ce que la nouvelle Assemblée va jouer son rôle à ce moment-là de contrôle sur l'exécutif en montrant qu'elle est sérieuse dans sa tâche de s'attaquer aux problèmes réels du pays?
Victoire Eyobi, vous êtes rédacteur en chef du Forum des As. Est-ce qu'on peut dire que l'installation de cette nouvelle Assemblée nationale est un moment historique pour la RDC?
Oui, c'est un grand moment. C'est pratiquement la victoire du peuple congolais. Vous savez, nous venons de sortir de 32 ans de dictature et 16 ans de transition. C'était très pénible pour cette population et la population n'a jamais reculé. Il a utilisé pratiquement tous les moyens pour se battre. On a vu des marches, on a vu des manifestations à gauche et à droite et finalement, grâce avec l'appui de la communauté internationale, nous avons pu avoir des élections. Donc cette fois-ci, nous avons au moins des députés qui sortent des urnes, qui reflètent la volonté de la population. Mais le grand problème, c'est de voir comment cette Assemblée nationale, comment ces élus du peuple vont pouvoir tout faire pour matérialiser les vœux de la population. Et là, je crois, c'est vraiment une grande préoccupation parce que ça demande d'abord une prise de conscience. Nous devons comprendre qu'une page vient d'être tournée. Nous devons comprendre qu'avec cette page, il n'y a pas seulement la dictature et autres, mais il y a la pauvreté. On a longtemps parlé de la pauvreté. On a longtemps parlé des guerres, de la misère dans notre pays. Nous avons besoin d'une vision nouvelle. Et ce sont les députés qui doivent nous aider à tracer cette vision, qui doivent nous aider comment à nous engager dans cette nouvelle page qui s'ouvre. Donc je crois que le défi est très grand, mais il y a lieu que les députés, dès ce jour, prennent conscience de cela.
Oui, Mike Mukebai, donc vous êtes directeur de publication de Africa News. Est-ce qu'on peut dire également que cette cérémonie, donc l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, une institution élue, est-ce qu'on peut dire qu'elle consacre les débuts même de la Troisième République en RDC?
Oui, je crois qu'elle consacre les débuts de la Troisième République, hein, même s'il y a à redire sur la forme, comme l'a évoqué tout à l'heure Ferdinand Farella, comme si on avait organisé les choses de sorte qu'on boucle tout au premier tour. N'empêche que ça consacre le premier pas dans la mise en place de cette Troisième République. Je voudrais en même temps faire une petite digression. Je partage totalement ce que Farella a dit quand il parle de dossiers comme le rapport Lutundula. Mais il y a là-dessus un fait important. Il y a beaucoup de gens qui sont mis en cause dans ces rapports Lutundula, qui ont été élus, qui sont dans ces parlements, qui, je suis sûr, travailleront pour bloquer que ces sujets soient débattus. Et c'est ça tout le problème. Le même camp qui a empêché, je le cite, c'est le camp PPRD qui a empêché ces débats. C'est le camp qui a la majorité aujourd'hui au Parlement, même si c'est une majorité relative, mais c'est autour de ce camp que va se constituer la majorité parlementaire. Je ne pense pas que ce camp qui hier a refusé que le Congolais connaissent la vérité sur ces dossiers, je ne pense pas qu'ils soient prêts. Regardez Monsieur Lutundula lui-même, qui a mené ce rapport, qui a vu que tel et tel est impliqué. Aujourd'hui, il est où? Il est dans le même camp de ce genre qu'il a mis en cause. Donc, il s'est fait allier à ce genre qu'il a mis en cause. Et je ne pense pas que cette législature sera capable de s'attaquer à des dossiers aussi importants, qui pourtant sont des premiers signaux. C'est-à-dire, on doit le prendre comme des premiers signaux pour montrer que c'est la fin de l'impunité, que c'est la fin de la malgouvernance.
Je suis encore tentée de vous dire wait and see, comme disent les Anglais. Attendons et voyons ce qui va suivre. Mais est-ce que Ferdinand Ferrella, vous avez le même crainte que notre confrère Mike Mukeba ici présent?
Pense qu'effectivement, la nouvelle Assemblée aura un rôle fondamental de contrepoids vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais il faut se poser maintenant la question autour de quelle majorité va s'articuler la configuration de la nouvelle Assemblée nationale. Avec le ralliement de François Senghor à l'alliance de
Ferdinand Ferrella, nous avons un petit problème technique. La ligne n'est plus bonne, on vous capte difficilement. Le temps d'arranger ça et de revenir à vous. Victor Eyobi, vous avez entendu les craintes soulevées par notre confrère Mike Mukebai par rapport à cette nouvelle Assemblée nationale élue par le peuple congolais. Est-ce que vous partagez les mêmes craintes?
Oui, les craintes sont réelles, mais la grande équation jusqu'à présent, c'est le programme du gouvernement. Actuellement, l'AMP qui est majoritaire, il est en train de faire alliance à gauche, à droite, le temps comme ils nous ont promis de faire un programme commun avec ses alliés du gouvernement. C'est de ces programmes-là, je crois que on pourra avoir un peu de lumière sur l'avenir dans la gestion des dossiers sensibles, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Et il y a autant de domaines, mais qui vont demander que les différents alliés puissent s'accorder. Et vous savez que lors de l'Assemblée qui venait de passer, c'est-à-dire sous la transition, on s'est occupé beaucoup plus de mettre en place comment le cadre institutionnel pour la Troisième République. Maintenant que c'est fait, moi je crois qu'il faudra qu'on s'attaque aux problèmes les plus importants, aux problèmes qui touchent la population. Et la population est entre autres victime de la corruption. Vous savez, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de recettes publiques qui, au lieu de servir aux besoins de la communauté, sont détournés par des individus, par des groupes d'individus. Moi, je crois que ce n'est pas de cette politique-là dont on attend voir le gouvernement agir. Et même la communauté internationale. La communauté internationale ne s'est pas investie pour rien, mais c'était pour que nous puissions entrer dans une ère nouvelle, une ère de gouvernance un peu différente de ce que nous avons connu avant, c'est-à-dire lutter contre la corruption, lutter contre la mauvaise gestion, sinon les élections n'auront servi à rien.
Oui, nous revenons à vous, Ferdinand Ferrella, si vous pouvez poursuivre l'idée que vous avez avancée par rapport aux craintes soulevées par notre confrère ici présent, Mike Mukebai.
Oui, c'est vrai, ce dit Mike, que M. Lutundula a maintenant basculé dans le camp de la majorité présidentielle, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui étaient citées dans son rapport sont toutes des personnalités qui ont été battues à quatre coupures lors de l'élection présidentielle. Donc ce ne sont plus eux qui seront aux affaires. Et peut-être qu'il sera temps à ce moment-là de se pencher sur leur cas et de ne pas le limiter à ce groupe qui avait été ciblé, mais de voir un peu pendant toute la transition qu'est-ce qui s'est passé au niveau des contrats, des signatures de contrats. Ça, c'est extrêmement important pour la République démocratique du Congo parce que l'un des premiers tests de la communauté internationale vis-à-vis des nouvelles institutions, ce sera de voir s'il y a bonne gouvernance, s'il y a une volonté réelle de lutter contre la corruption. Et le robinet de l'aide ne va se rouvrir que s'il y a des garanties sérieuses que les nouvelles institutions entendent faire de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, leur priorité.
Alors, on a tantôt là parlé également des alliances, et sûrement vous avez entendu parler de cette alliance entre l'AMP et le PALU pour soutenir donc la candidature de M. Joseph Kabila au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'information a été rendue publique ce jeudi dans un communiqué signé par Antoine Gizenga, qui est secrétaire général, chef du PALU. Le parti d'Antoine Gizenga justifie ses choix par le fait que c'est du côté de l'AMP qu'ils ont trouvé satisfaction à leurs préoccupations, notamment celle de constituer la majorité parlementaire. Les explications avec Godefroy Mayobo, porte-parole du PALU, joint par notre confrère Nazaire Nkoko. Suivant.
Le PALU, à travers sa dernière déclaration, avait indiqué qu'aucun parti ou regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Et pourtant, le Premier ministre sortira de cette majorité parlementaire. Et il appartiendra à cette majorité parlementaire de former le gouvernement. Le PALU a rencontré les regroupements politiques des deux candidats à l'issue pour le second tour de la présidentielle. Et jusqu'à ce jour, le PALU n'a trouvé satisfaction qu'à la réponse de l'AMP. C'est ainsi qu'il a décidé de se coaliser au Parlement avec l'AMP. Deuxièmement, le PALU prendra part au gouvernement qui sera issu de la majorité parlementaire, gouvernement qu'il conduira. Et par conséquent, troisièmement, le PALU soutiendra la candidature de Joseph Kabila au deuxième tour de la présidentielle. À cet effet, le PALU donnera la consigne de vote à ses militants et à ses électeurs en faveur du candidat Joseph Kabila Kabangé.
Oui, Victor Eyobi, que dire de cette alliance?
Disons que c'était attendu, d'autant plus qu'il y a quelques semaines déjà, il y avait des tractations. On a vu Antoine Gizenga aller auprès du chef de l'État, Joseph Kabila, mais il s'est également rendu du côté du MLC. Il y a eu des communiqués qui avaient été rendus publics. Je suis très content dans cette déclaration, parce que le PALU dit qu'il a pris le temps de consulter sa base et de prendre en compte un certain nombre de considérations. Et ce n'est qu'au bout de cela qu'ils ont pris la grande décision. Mais c'était attendu, d'autant plus que sur le plan idéologique, le PALU est beaucoup plus proche du PPRD que du MLC. Sauf que le PALU, c'est un parti qui est très attaché à l'idéologie, à sa philosophie politique lumumbiste et autres, ce qui ne sera pas du tout facile de cohabiter avec les autres alliés, d'autant plus que sur le plan de la ligne idéologique, il n'y aura pas toujours cette facilité-là. Et de deux, le PALU a une base qui lui est très très fidèle. Alors je me dis que le travail maintenant, ce sera d'abord d'expliquer le bien fondé de cette alliance à la base, ce qui n'est pas facile parce que on n'a pas assez de temps d'ici les élections et ce n'est qu'après qu'on pourra juger. Mais sur le plan pratique, c'est un parti qui pèse réellement. Antoine Gizenga a fait 13% aux élections présidentielles et imaginez qu'il n'a pas parcouru toute la République. Je me dis que pour le deuxième tour, les moyens lui seront accordés pour que réellement il secoue toute sa base de la RDC.
Mais en fait, cette alliance, Mike Moukeba, est-ce une garantie pour le camp Kabila pour remporter ses second tours de la présidentielle?
Ce n'est pas une garantie, mais c'est un appui important. Mais j'aimerais d'abord dire, en liminaire de mon propos, que c'est une alliance contre nature. Ça, c'est clair. Il n'y a rien en commun sur le plan idéologique entre les PALU et le PPRD. Lui-même, les PALU, a toujours présenté la dichotomie sur le plan politique dans le pays, le clivage en termes des prédateurs et de ceux qui défendent le peuple. Il a toujours mis le peuple perdu dans le camp de ceux qui, ils ont toujours considéré comme des prédateurs. La brochure qu'ils ont publiée au premier tour de l'élection présidentielle, cette brochure que nous avons exploitée, que mon journal a exploité, Africa News, cette brochure est fondamentalement anti-Kabila. Mais c'est là tout le problème. C'est que les analystes pensaient que le Palou allait faire une alliance sur une base idéologique. Mais le Palou a fait une alliance rien que dans le but de gouverner. Parce que ce que Godefroy Mayobo ne dit pas, ils avaient déjà levé l'option de participer à la gestion du pouvoir. Ça, ils l'ont dit dans leur précédent communiqué. Sans dire avec qui. Ça veut dire que le Palou s'était dit, nous travaillons avec celui qui aura la majorité. Le reste, c'est clair, c'est Kabila qui a obtenu la majorité. Donc, sur le plan de la démarche, ce que Godefroy Mayobo dit ne tient pas debout, parce qu'il y a une option, ce sont des communiqués du Palou.
Mais nous savons, Mike Mukiebaï, que plusieurs choses entrent en ligne des comptes pour faire des alliances. Ça ne suffit pas seulement d'avoir la même idéologie. Il y a d'autres enjeux dans cette alliance.
Je vous en prie, je crois que si les gens créent des partis politiques, c'est que l'élément différentiel au départ, c'est l'élément idéologique. Vous avez vu comment la France s'est soudée, gauche comme droite, contre Le Pen. C'est qu'il y a eu un élément idéologique. On dit, on ne peut pas accepter les idées de Le Pen en France. On ne peut pas accepter que ces idées la progressent en France. C'est l'élément fondamental en politique. Mais je voudrais dire une dernière chose sur cette question. J'ai suivi Godefroy Mayobo qui dit que nous allons conduire le gouvernement. Mais les Palous, excusez-moi le terme, s'est planté. Les Palous n'ont que 34 sièges au Parlement. Et les Palous prétendent conduire un gouvernement. Donc Gizenga sera Premier ministre.
Nous poursuivons et nous allons voir avec Ferdinand Ferrella. Est-ce que, au regard de ce que viennent de dire nos deux intervenants ici, est-ce qu'on peut dire d'un côté que cette alliance est contre nature, comme le dit notre confrère Mike Mukiebaï?
J'ai eu l'occasion de parler à des militants du Palou juste après le premier tour de l'élection présidentielle de 2018. Et tout ce que je sais en fait, c'est qu'il fallait faire un choix.
Ferdinand Ferrella.
Nous
excusons, nous sommes encore obligés de vous interrompre un moment parce que il y a un petit problème technique. Nous allons revenir à vous le temps que la technique puisse régler le problème. Victoire Yobi, vous l'aviez dit, le premier tour de l'élection présidentielle a démontré que le Palou est la troisième force politique en RDC, donc après le PPRD et le MLC. Alors maintenant que ce parti d'Antoine Gizenga vient d'annoncer qu'il va soutenir la candidature du président Joseph Kabila au second tour de la présidentielle, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences directes sur l'échiquier politique congolais?
Oui, disons, parce que vous savez, le PPRD a connu des problèmes au premier tour, notamment avec les provinces dites de l'Ouest, là où le Palou, a beaucoup de membres, notamment il y a le Bandundu. Au Bandundu, Gizenga, c'est pratiquement un demi-dieu. Il y a la province de Kinshasa, il y a le Bas-Congo également. En province orientale, de l'autre côté également, il y a la présence des sympathisants du Palou. Donc, quand nous faisons l'addition de toutes ces contributions, ça peut constituer un apport sérieux pour le PPRD. Vous savez, à Kinshasa, par exemple, parmi les grandes forces en dehors de l'IDPS, c'est le Palou. Donc je me dis que c'est une alliance qui apporte beaucoup de bonnes choses au niveau de l'AMP, mais la grande question, ce sera au niveau du respect des accords. Vous savez, dans notre pays, les accords ne durent que le temps de leur signature, et après, on oublie, c'est comme Mike a dit tout à l'heure, quel rôle exactement le Palou va jouer au sein de cette alliance. Est-ce que, comme il prétend, on pourra lui donner la primature ou à notre poste? C'est très difficile de déterminer actuellement. Nous ne connaissons pas les termes de leurs accords, mais au moins, ce qui est vrai, le Palou est une grande force qui apporte un plus dans le combat de l'AMP face au RENACO.
Oui, Mike Mukeba, est-ce que vous voyez également des conséquences que peut avoir au fait cette alliance AMP Palou sur l'échiquier politique congolais?
Oui, je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, c'est un appui important. Gizenga a une certaine stature historique dans le Bandundu et à Kinshasa. Donc, on peut dire a priori qu'il va apporter quelques voix supplémentaires à Joseph Kabila. Mais il y a aussi les problèmes de l'électorat dans sa nature et dans sa compréhension du phénomène, de ces phénomènes politiques, le phénomène du report de voix. Je prends d'abord cet électorat dans sa nature. L'électorat de Gizenga est, dans une certaine mesure, un électorat anti-Kabila, parce que c'est lui-même qui l'a conditionné de cette façon-là. Mais le deuxième aspect, c'est cet aspect de la compréhension de ce phénomène du report de voix. J'ai remarqué que le phénomène de report de voix, j'avais déjà réfléchi dans un autre débat là-dessus, j'ai remarqué que ce phénomène de report de voix n'est pas encore très bien compris. Moussa Nyamwisi, au premier tour, dit « Moi, je ne suis plus candidat, je me rallie à Joseph Kabila, mais des gens vont, ils votent Moussa Nyamwisi. » Pourtant, Moussa Nyamwisi a battu campagne chez lui, dans le pays nantais où il a été essentiellement voté.
Oui, vous voulez dire par là qu'il y a un problème d'information.
Il y a un problème d'information, même de compréhension de l'information finalement quand elle arrive au destinataire, de comprendre qu'est-ce que ça signifie le report de voix. Parce que les gens, même quand on dit aujourd'hui qu'ils sont fanatiques, c'est ça justement le problème, ils sont tellement fanatiques. Par exemple, j'ai appris qu'il y avait des gens dans le Bandundu, aux législatives, qui cherchaient le nom de Gizenga. Alors il risque d'avoir des gens comme ça, qui au deuxième tour, vont chercher le nom de Gizenga, ils ne se trouvent pas, ils ne votent pas. C'est là que j'allais terminer pour dire ceci, que là, Gizenga a fait un calcul qui n'a pas beaucoup de chances de lui sourire. Parce qu'aujourd'hui, il n'a que 34 députés. 34 députés. Gizenga va rester Premier ministre. S'il les passe, il restera Premier ministre pendant combien de temps? Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le gouvernement qu'il aura à conduire. Il ne conduira pas avec les idées du Palou. Il le conduit avec les idées de la majorité.
Oui, c'est vous qui les dites, Mike Mukeba. Alors, Victor Yobi, on voit que les alliances se forment déjà. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que les prochaines semaines, on puisse entendre ça d'un peu partout?
Oui, disons que déjà demain, il y a le RENACO. Il y a une structure en rapport avec la
pour
nation.
Former l'Union pour la Nation.
L'Union pour la Nation. Donc demain, c'est les RENACO qui va montrer ses couleurs. Alors on ne sait pas exactement s'ils ont dû avoir le soutien de gros poissons tels que l'UDPS. Donc ça, déjà, c'est très attendu. Mais les alliances, ça va continuer. Mais le grand problème, ce sont les enjeux de ces alliances-là. Qu'est-ce que exactement ça pourra rapporter? Parce que au niveau, par exemple, du RENACO, ils doivent vraiment ratisser large pour pouvoir remonter un peu la pente. Sinon, comme on l'a vu les derniers jours ici, l'AMP est en train de prendre du terrain et ce n'est pas du tout facile. Donc c'est tout à fait normal, les alliances, mais c'est question de voir comment les gérer et comment, jusqu'où ça peut nous amener, en quoi ça peut permettre aux plateformes d'atteindre les objectifs et surtout de réaliser les vœux de la population. Mike l'a dit tout à l'heure, c'est très facile pour les leaders d'aller signer des documents, mais dès lors que ça ne répond pas aux besoins de la base, quelque part il y aura cassure et on ne saura pas matérialiser sa vision politique.
Oui, surtout si on sait que les appels au vote peuvent ne pas être suivis par la base. Alors, que dire, est-ce que vous pensez qu'il y aura des futures alliances et que ces futures alliances seront aussi déterminantes?
Bon, futures alliances, c'est que maintenant, là, nous avons deux groupes importants. Il y a l'AMP et le RENACO. Et chacun de ces groupes-là cherche à pousser davantage des tentacules. Hein. L'AMP a réussi un bon coup avec Gizenga, il faut le reconnaître. Hein. Gizenga, peut-être que lui-même était déjà prédisposé, parce qu'il était intéressé de participer à la gestion du pouvoir. C'est un peu ça. Le RENACO va continuer à travailler. Je ne vois pas Tshisekedi donner une une consigne de vote de manière formelle, officiellement. Je crois que pour plusieurs raisons, il a son mythe à préserver. S'il donne cette consigne et qu'il n'y a pas victoire, que c'est la victoire ne bascule pas du côté du camp pour lequel il aura donné cette consigne.
Pourtant...
Qui se prononce comme ça formellement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un soutien de l'UDPS. Le grande figure de l'UDPS que nous connaissons, d'ailleurs, ils l'ont déjà dit à la télé qu'ils vont soutenir Jean-Pierre Lemaire. Mmh. Mais la question reste de savoir si Tshisekedi va donner une consigne de vote expressément à ces militants. Je me dis, pour plusieurs raisons, j'ai doute. Mmh. Entre autres raisons, c'est que je constate que c'est un homme qui depuis cherche à préserver son mythe. Donner une telle consigne, c'est prendre des risques, même pas pour soi-même, mais pour un autre. Que s'il échoue, on dira, ah, il a échoué avec Tshisekedi, et Tshisekedi est très prudent sur cette question. Mais je me dis, il va s'engager à fond, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, l'UDPS s'engagera. Donc, il y a comme ça, de gens que le RENACO peut
s'engager comme ça à la fin du processus, parce que depuis le début, on a...
Non, ce n'est pas qu'il va s'engager dans le processus. Il va donner un coup de pouce, d'une façon ou d'une autre, à Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est inévitable, parce que l'UDPS reste sur cette dialectique ici, que son adversaire, ceux qui ont empêché l'UDPS de s'impliquer dans le processus, c'est le PPRD, c'est les kabylistes. Alors pour ça, l'UDPS s'est dit qu'elle va faire payer aux kabylistes.
Ah, Mike Mukebayo, on va voir ça demain, comme déjà il y a cette réunion-là de l'Union pour la Nation. Donc une nouvelle coalition qui va soutenir la candidature de Jean-Pierre Bemba. Donc nous allons voir si tout ce que vous dites là va se réaliser. Et passons à un autre point de notre émission de ce soir et revenons sur l'actualité en début de la semaine avec l'incendie du bâtiment qui abrite les installations de Canal Congo Télévision et Canal Kin et la Radio Liberté, appartenant toutes au vice-président de la République Jean-Pierre Bemba. Alors nos confrères Claude Kianza et Georges Kamoudjova étaient sur le lieu le lendemain de l'incendie, suivant leur reportage.
Seule l'odeur d'objets brûlés accueille tous ceux qui franchissent la porte d'entrée du bâtiment. C'est cette porte qui a servi d'issue de secours, nous indique Ekofo, un de 20 militants du MLC venus ce mardi pour ramasser les débris et nettoyer le bâtiment. C'est eux qui nous conduisent enfin au deuxième niveau où était installée l'administration de Canal Kin et quelques journalistes de Canal Congo Télévision. Des chaises par-ci et des tables par-là, quelques documents en désordre, ce niveau a reçu l'impact de la fumée et de la chaleur venant du troisième niveau. L'escalier qui mène à ce troisième niveau est plein de cendres, tout est noir et l'on comprend que rien n'a été épargné. Même pas le faisceau qui permet d'envoyer le signal TV vers l'émetteur de Mbiza qui arrose Kinshasa et les environs. Seule une antenne parabolique sur le toit n'a pas subi la rigueur du feu. Câbles électriques et fils de cuivre traînant sur le pavement, barres de fer pendant, plus de toiture, le siège de Canal Kin et Canal Congo Télévision ressemble à un bâtiment abandonné. Eddy Kabeya est le seul caméraman et présentateur d'émission trouvé sur les lieux cet après-midi. Au-delà des décombres, il voit la vie de tous ces journalistes qui vivent grâce à Canal Kin, à Radio Liberté et à Canal Congo Télévision.
Maintenant, là, on ne sait pas quoi faire pour nourrir la famille et payer les minervales de nos études. Maintenant, la vie est devenue difficile parce que notre gamme est perdue.
Malgré cela, certains techniciens trouvés sur place gardent courage. L'un d'eux nous déclarait qu'une partie du matériel a été sauvée sans pour autant préciser quel matériel et en quelle quantité. Ils espèrent que tous les sympathisants du MLC vont contribuer pour que les trois médias recommencent à fonctionner. Mais toutefois, personne n'avance une date pour la reprise des émissions. Ils restent debout en train de regarder les décombres. Comme les journalistes et autres militants du MLC trouvés dans ce bâtiment, ils ne croient pas que l'incendie est d'origine électrique ou accidentelle. Mais à l'heure actuelle, aucune enquête n'a encore déterminé les causes exactes de cet incendie.
C'est voilà un peu donc l'état des lieux, le lendemain même de l'incendie de ces bâtiments qui abritent les installations donc de chaînes de télévision et de la Radio Liberté appartenant au vice-président Jean-Pierre Bemba. Alors ces événements surviennent quelques jours avant même les débuts de la campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez, vous Mike Mukebayi, que ils ont auront une incidence sur la campagne du vice-président Jean-Pierre Bemba.
Mais naturellement, nous le disions dans l'émission passée ici, que la rencontre entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba n'avait pas décrispé la situation. Donc nous irons à la campagne, nous ferons la campagne avec cette tension en l'air. Et il est sûr que même la proclamation des résultats se déroulera dans le même contexte. Donc il y a un problème réel que nous avons évoqué la fois passée. C'est un problème d'un règlement politique de certaines questions qui sont connues. Je suis en train de craindre et je prends le risque de les dire qu'il va y avoir une autre forme de guerre après le deuxième tour. C'est très très compliqué. Nous avons des informations très 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 inquiétantes que nous avons recoupées, que nous continuons à recouper. Plus ou moins aujourd'hui à 50%, nous pouvons craindre qu'il se passe quelque chose après la proclamation de résultats.
Finalement, Mac, je vais dire que vous faites passer pour
je vous en prie, moi je ne me fais pas passer pour un prophète. Moi je suis un journaliste, je passe mon temps à écouter la rue, je passe mon temps à écouter mes sources et à faire des analyses pour que les politiques comprennent et qu'ils orientent leurs décisions. Et j'en profite pour dire que je crains que si cette tension persiste pendant la campagne, qu'elle se renouvelle après la campagne. Donc pendant la publication de résultats, je crois que je reste dans le sujet.
D'accord. Victoire Eyobi également, est-ce que le fait que ces chaînes aient connu ces événements malheureux pourrait avoir une incidence sur la campagne électorale du vice-président Jean-Pierre Bemba?
Disons, ici, c'est l'occasion pour nous d'abord de déplorer ce qui est arrivé à ces deux chaînes et à la Radio Liberté. C'est très déplorable, d'autant plus que notre population souffre d'un déficit communicationnel criant. Vous savez, moi, j'ai voyagé pendant la campagne présidentielle, notamment à l'Est, et dans cette partie-là, on ne captait que deux chaînes de télévision. La nationale et une autre privée, mais qui appartient à une famille politique. Donc, pratiquement, on n'avait pas des échos contraires, on n'avait pas des nouvelles d'autres tendances politiques. Alors, dès lors qu'il y a des privés qui montent des chaînes pour voir comment combler ces déficits, et quand de tels incidents arrivent, vous comprenez un peu, le choc n'est pas seulement ressenti par les propriétaires des chaînes, mais surtout par la population, parce que ces chaînes ont un public, ces chaînes, ce n'est pas une seule chaîne, c'est trois au moins, ils ont un public qui est arrosé, qui est régulièrement informé. Moi, je me dis que, quelque part, la haute autorité des médias, comme les autres organisations professionnelles, devrait s'élever non seulement pour condamner ce qui est arrivé, mais surtout également pour aider les chaînes à voir comment rapidement récupérer sur le plan matériel, ce n'est pas tellement mystique, même sur le plan reconstruction de ces bâtiments-là, ce n'est pas tellement mystique, c'est possible pour permettre parce que la campagne se passe dans de bonnes conditions. Sinon, on plante déjà le décor d'une injustice, on plante déjà le décor de la désinformation, de la sous-information. Or, c'est au travers des choses comme ça qu'on arrive à des situations dramatiques. Donc, je lance ici un appel aux organisations professionnelles, à la communauté internationale qui nous assiste dans tout ce qui se passe, de voir comment aider ces chaînes à pouvoir se remettre sur les rails pour aider la population à être mieux.
Oui, effectivement, est-ce que vous avez une idée de la façon dont il faut équilibrer la campagne entre les deux candidats présidents au deuxième tour pour qu'il n'y ait pas ces déséquilibres-là que vous venez de soulever?
Oui, pour l'équilibre, il y a d'abord les chaînes qu'on appelle nationales, il y a essentiellement la RTNC. Or, vous savez, la RTNC, les couleurs qu'elle porte généralement ne sont pas toujours dans le sens de l'équilibre. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a eu d'autres chaînes qui sont venues sur le marché, un peu une manière d'aider à ce que le pluralisme puisse éclore et puis grandir dans notre pays. Mais je me dis que la seule solution actuellement, ce n'est pas de miser sur la chaîne nationale, mais plutôt d'aider les chaînes de ce candidat. C'est un candidat, il a des droits autant que d'autres candidats, il a des droits d'informer son électorat, il a des droits de faire passer son idéologie, c'est tout à fait normal. Je crois que c'est un handicap majeur qu'il faut réparer.
Oui, Mike Moukebany, je rappelle que vous êtes directeur de publication des Africa News. Comment équilibrer la campagne entre les deux candidats présidents au deuxième tour?
Non, de toutes les façons, ça, je vous donne une information. Les chaînes de Jean-Pierre Bemba vont être opérationnelles à partir de demain. Selon les journalistes, selon le journaliste que j'ai rencontré en venant ici, que j'ai rencontré par hasard, des confrères, qui m'ont dit qu'à partir de demain, la chaîne va reprendre. Mais le problème de
la question des maires, d'équilibre.
D'équilibre, je vais répondre à cette question. Mais c'est là que je me sens un peu gêné aux entournures pour répondre à cette question. Parce que quand on essaye de limiter cette question dans le cadre de la campagne, on la cerne très mal. Parce que il y a des médias qui ont déjà commencé la campagne. Ça voudrait dire, on parle de la campagne, elle durera 15 jours. Mais déjà aujourd'hui, il y a des médias qui ne sont pas soumis à la loi. C'est-à-dire, je le disais la fois passée, ça voudrait dire qu'il y a un pouvoir politique ici qui est en place, qui dirige le pays, qui s'est mis au-dessus de la loi, qui a un média, qui est un média public, qu'il utilise pour ses propres intérêts, depuis toujours. Et Bemba n'a pas eu d'autre choix que de répondre à l'adversaire par le même moyen, en créant des chaînes privées, pour avoir un espace où il peut parler quand il veut parler. Donc il y a un problème d'équilibre des médias depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ce n'est pas en 15 jours qu'on va régler ces problèmes-là. La campagne...
Vous êtes journaliste, quel est par exemple votre apport, ou bien votre idée de la façon dont on pourrait vraiment équilibrer
Non, vous savez, je vois d'abord la question sur le plan politique. Tant que l'un et l'autre ne se soumettent pas eux-mêmes à la loi, les deux protagonistes, ils vont abuser aussi des médias. C'est ça tout le problème. Tout ce que moi je peux faire ici, c'est de mettre des idées qui vont rester de vœux pieux. Je veux constater, moi je suis analyste, je me sens dans l'impuissance aujourd'hui, dans l'incapacité d'envisager une solution parce que ceux qui sont en train de se battre ne se battent pas dans un cadre réglementaire, c'est ça la difficulté. Si se battaient dans un cadre réglementaire, moi je peux proposer des solutions dans un cadre réglementaire. Or le cadre réglementaire n'est pas respecté et c'est là la grande difficulté. C'est là la grande difficulté. Vous avez vu le premier tour, la campagne, les médias, comment, quel rôle. Mais ce sera comme ça, le deuxième tour. Celui-là va prendre sa chaîne de télé, celui-là, ainsi de suite. Regardez, par exemple, quand vous allez à la TNC, il y a un protocole de présentation du journal télévisé. On ne commence que par Kabila, quel que soit le grand événement. C'est déjà ça le problème. Commençons par réglementer ça.
Oui, Victor, et oublie un dernier mot pour mettre fin à cette tribune de la presse. Donc, la campagne... Elle commence finalement le 13 octobre pour l'élection présidentielle au second tour.
Nous espérons d'ici le 13 octobre que le climat politique et même l'environnement sur le plan national sera mieux assaini pour permettre à la population de bien aborder cette période électorale. S'il y a eu une grande décision que la population est conviée, moi je crois qu'il y a lieu de lui planter un cadre idéal pour que la démocratie remporte dans notre pays. Déjà avec l'installation de l'Assemblée nationale, c'est une grande victoire, c'est une page qui est tournée dans notre pays.
Merci beaucoup et c'est donc la fin de cette émission. Nous nous excusons de ne pas avoir eu la participation de Ferdinand Ferrella au cours de cette émission. Nos auditeurs, je pense, ils vont nous en excuser. Et nous disons donc merci à Mike Moukebany, directeur de publication de Africa News, à Victoire Yobi, rédacteur en chef des Forums des As, d'avoir participé à cette tribune de la presse. Prochain rendez-vous vendredi, mais pour nos auditeurs, cette émission sera rediffusée demain matin à 5h30. Elle sera également disponible sur le site internet sur www.radiocapu.net. Au revoir et à la prochaine.